Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur la 93.5. La conférence des évêques du Togo a réagi sur l'évolution de la situation socio-politique du Togo. Les évêques notent que le pays a officiellement basculé le 3 mai dernier dans la 5e République dans un contexte de forte crispation de l'odeur dans les cœurs et de frustration générale provoquée par des conditions de vie précaires des populations. Dans une déclaration en mars 2024, les prélats disent avoir attiré l'attention des autorités togolaises sur l'opportunité ou non d'un changement de la constitution sans une réelle consultation du peuple souverain. Ils disent également avoir appelé avec responsabilité et dans un esprit de paix le chef de l'État à sursaut à la promulgation de la nouvelle constitution adoptée par une assemblée nationale en fin de mandat. Face à cette situation, les évêques demandent aux autorités togolaises de prendre conscience du malaise grandissant au sein de la population, d'entendre la voix du peuple avec respect et prise en considération et d'engager un processus d'apaisement avec discernement à travers la tenue d'un véritable dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. Le sujet nous intéresse, nous allons en parler aujourd'hui au Club de la Presse, bien sûr, au Club de la Presse, bien sûr, de ce mardi 27 mai 2025, bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek aussi de TV assure la mise en ligne. Jérôme Dakouté est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Toujours salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Améro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos radios partenaires. Il s'agit de Ibn Radio et Radio Les Bénins, mais aussi vous pouvez aussi nous suivre à travers nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes en studio, Eric Parkoudou-Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour cher ami, grand frère Claude Astier-Bautis. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Je suis vraiment très content de te retrouver en pleine forme après cette épreuve de la vie. Hein, nous tous, nous sommes appelés à passer par là, mais quand ça arrive comme ça, il faut s'armer de beaucoup de courage et beaucoup de vigueur pour pouvoir reprendre ses activités.
Tout à fait. Eric, merci beaucoup. Merci surtout pour le soutien. Je le disais au micro tout de suite, quand je me suis retrouvé en famille la dernière fois, quand je tournais ma tête, je vous ai vu et j'ai vu beaucoup de confrères, j'ai vu beaucoup de personnes qui nous ont témoigné leur soutien à travers beaucoup de gestes et aussi des marques même d'ailleurs d'affection. Merci beaucoup à vous et ça nous va droit au cœur. Merci.
C'est un devoir, hein. C'est un devoir pour nous tous de le faire. Pascal, toi aussi, tu as toujours été à nos côtés pendant des moments difficiles. Ce n'est pas seulement au Club de la Presse, mais j'avoue que véritablement, il faut remercier tous ceux qui étaient là à tes côtés.
Merci beaucoup, Eric et Parkoudou-Johnson. Claude Assiobotis était également à nos côtés. Claude, bonjour.
Bonjour.
Claude, j'espère que vous allez bien.
Oui, un bon plaisir, c'est surtout de te voir en forme. Ton deuil particulier dans le deuil général du Togolais. Donc, c'est bien, tu vois, en forme, ça suffit, je partage ça. Je crois que après un deuil, il faut quand même en sortir.
Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et c'est ce que Dieu nous a aidé à faire. Ouais. C'est que, oui, vous l'avez si bien dit, après un deuil, il faut arriver à s'armer de courage. Hein. Et Eric l'a dit, tout le monde passerait par là. Mais tout compte fait, il faudrait quand même que ça ne soit pas si tôt.
Ouais, voilà.
Ça ne soit pas si tôt. Merci beaucoup aux uns aux autres hein, pour les diverses contributions et aussi les marques de soutien hein, que vous nous avez apportées au cours alors de cet événement. Et, merci du fond du cœur. Alors Claude, oui, si vous êtes là, c'est parce que nous sommes au mardi. Mardi, ça rime bien avec la chronique, bien sûr, la bibliothèque animée que nous animons chaque mardi hein, dans cette émission Club de la Presse et dans le cadre alors de notre aventure littéraire dénommée la bibliothèque animée qui vise à donner une visibilité à la littérature togolaise. Aujourd'hui, nous rentrons hein, dans le vif de la nouvelle thématique que nous avons inaugurée la semaine passée. Cette nouvelle thématique, nous l'avons intitulé « Corps de femme, femme d'esprit dans la littérature togolaise ». Et comme d'habitude, nous allons visiter cette thématique à travers une œuvre littéraire dont le titre est « Femme rebelle » de l'écrivain Nikabu Nyakamini, publié aux éditions Vérum. Et cette œuvre qui se penche sur le corps de la femme, sa pesantie, sur le phénomène de dépigmentation ou de blanchisation hein, de la peau chez la femme noire. Alors Claude, quel est le regard de l'auteur sur ce phénomène social ravageur?
Oui, le regard général de l'auteur sur ce phénomène ravageur que nous appelons la dépigmentation, c'est un regard noir sur ces femmes blanchies. C'est pas des femmes blanches, mais c'est des femmes blanchies. Hein. Et le ton, la tonalité, le ton est satirique, ça veut dire que c'est un ton de dénonciation. Et comment ça se manifeste? L'auteur utilise beaucoup d'expressions, son style est très caricatural hein, pour désigner ces beautés-là. Et je peux vous donner des exemples, il parle de beauté risible, de la racaille des libertines, c'est comme ça qu'il désigne, des icônes hideuses, des corps mutilés, calcinés, carbonisés, et le club des hippopotames. Et voilà, des expressions très fortes pour les désigner. Et puis, même le titre qui revient souvent dans l'œuvre, au cœur de l'œuvre, Femme rebelle. D'abord, il faut remarquer le jeu entre les mots belle et rebelle. Hein? Femme rime avec beauté, mais ici, femme devient rebelle. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est des femmes en rébellion, d'abord contre leur beauté identitaire, naturelle, ce qu'on appelle la beauté racée. Vous savez, lorsque vous voyez, par exemple, une cabienne belle, Vous savez quand même que ça, c'est une cabienne. Mais elle est belle. Mmh. Une peule, oui. Est-ce que vous suivez? Mmh. Voilà. C'est ce qu'on appelle la beauté racée. Voilà des femmes en rébellion contre leur beauté racée d'être noire. Et nous sommes à l'antipode du « Black is beautiful » des négros américains. Hein, et de la négritude. Hein, femme noire, vous connaissez le poème de Senghor.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est les femmes qui sont rebelles parce que leur corps, leur peau noire résiste à la blanchisation aussi. Ça laisse des taches noires qu'elles sentent le besoin de cacher au regard public. Voilà, parce que le corps devient rebelle et elles veulent tout effacer, tout en douceur, mais il y a des parties du corps qui restent rebelles et qui ne veulent pas s'effacer. Et voilà, et à peu près le regard général que notre auteur a sur ces femmes.
Alors, est-ce que ça veut dire, Claude, que alors, la peau noire n'accepte pas la blanchisation telle que vous l'avez dit?
Oui, mais c'est ça qui se voit. Et c'est une peau, on ne déforme pas le naturel. Mmh. Hein? on ne défend pas le naturel. Et ceux, celles qui se livrent à ce, parce qu'il y a aussi des hommes qui le font, mais surtout les femmes, celles qui le font, l'entretien est terrible. Vous le savez. C'est un phénomène que nous vivons. L'entretien est terrible. Donc, je crois que c'est un phénomène déplorable que beaucoup déplorent.
Alors Claude, c'est vrai que l'auteur cible une cause pour laquelle il est particulièrement féroce. Et Claude, il faut nous parler un peu alors de cette cause dont parle l'auteur.
Oui, il y a d'abord le cas des filles, des jeunes filles. Le cas des jeunes filles. Et je le cite lui-même. Il parle de jeunes filles partisans de moindre effort qui considèrent que qu'il appartient au mec de répondre à tout, de résoudre tous leurs problèmes. Cette jeune fille-là, et comme je l'ai déjà dit, pas de ce club d'hippopotames qui vont se rassembler dans un bar de foufou appelé Lamboko, Lamboko, qui voteraient l'un dans leur rébellion contre le pot, contre leur beauté racée. Là, je cite toujours l'auteur, elles vont jusqu'à tisser, selon lui, l'auteur toujours, un nid de cheveux de mort sur la tête.
C'est fort ça, Claude.
et se donne même des noms très artificiels. Sans doute un code pour les amants potentiels. Et voilà, des noms comme Mémé, Mimi, Nono, Lolo, Kaka, Passi, Chéché, Chacha. Des noms familiers que nous avons l'habitude d'entendre. Il arrive à tourner en dérision. Ces noms auxquels nous sommes habitués deviennent sous sa plume des sobriquets. Voilà, à peu près. Et même les villageois le succombent à ce phénomène infernal. Voilà l'exemple de Yati, une villageoise, pileuse de foufou, et c'est le débat, qui devient très vite Alice. Tout le monde l'appelle Alice. Elle est plus heureuse d'entendre son nom. Sans passer par le baptême, bien sûr, comme nous avons l'habitude de le faire. Et dans la boue des consommateurs de foufou, et pourquoi pas des consommateurs de jeunes filles. Voilà.
Mais Claude, est-ce que ça ne repose même pas la question, le problème surtout de la perte d'identité?
Oui, mais c'est tout le problème. C'est ça le... Mais c'est ce que l'auteur croit. La perte d'identité, oui. C'est ce qu'il croit. Il croit que c'est un prolongement de la colonisation. Et de la difficulté à se décoloniser mentalement. Mais il y a le cas des femmes mariées. C'est là où...
Tout à fait. C'est l'autre couche dont parle l'auteur.
Voilà. Il y a l'autre couche. Et là, à la tonalité... caricatural et satirique, c'est ajouter la tonalité pathétique. Ça fait pitié. Et c'est le cas de deux personnages dans le roman. Elles veulent tous sauver leur mari, vous savez pourquoi? Parce que ses maris sont infidèles parce que elle court après les jeunes filles au teint clair.
Ils courent.
Les maris sont friands de ces chers au teint clair. Elles sont sous le charme de l'emprise, sous le charme et l'emprise de ces filles au teint clair. Alors, elle veut les sauver de l'infidélité en faisant quoi? Voilà par exemple une dame qui est cadre, qui s'appelle Mémé Fala, cadre d'une grande société commerciale, qui poursuit son mari jusqu'à Paris pour le surprendre dans un hôtel en vraiment délit, avec sa maîtresse, au teint naturellement clair, une certaine marché. Mais au lieu de faire le scandale à Paris, elle retrouve tous ses sens et elle opte pour une solution. La solution magique, c'est quoi? Elle aussi va se blanchir, elle offre pour la glutation, c'est-à-dire se fait injecter le produit chimique qui rend blanche. Elle en a les moyens,
Et c'est avec ses conséquences.
Et voilà, voilà justement, je vais en parler. Hein, tu as si bien compris. Parce que, au lieu. Les résultats sont vraiment contre-productifs. Hein, elle commence à dégager une odeur, j'imagine chimique, qui va l'éloigner de son mec tranquillement et qui va se tourner vers les mignonnes, les petites filles domestiques pour caresser des seins juveniles selon l'auteur. et c'est ça. Alors qu'elle-même va mourir, c'est ça le drame. Elle-même va mourir de cancer à cause de cette opération-là après. Hein? Alors, et cette femme dont on dit qu'elle a une peau noire d'ébène. Une peau noire d'ébène, vous devez l'imaginer, une belle peau. Ouais. Hein? Et l'ébène, c'est un bois qui se polit, qui est très poli. Une peau d'ébène. Et elle a voulu troquer ça contre la peau d'hippopotame. Ah ben là, voilà. Et il y a sa collègue, hein, qu'elle a aidé aussi à se blanchir et qui, après un accouchement, sa peau, son corps se rebelle contre la médecine parce que les médecins n'arrivent pas à coudre sa peau, à la réparer. Elle en est morte. Voilà à peu près. Voilà.
Eric, parlant de la dépigmentation, c'est un phénomène qui a cours hein, dans notre société. Mais au-delà de tout, il y a des risques et des dangers, bien sûr, là-dedans.
Bien sûr, tous les jours que Dieu fait, la presse en parle. Beaucoup de confrères en font des articles très intéressants qui, normalement, devraient permettre ou devraient ouvrir les yeux à nos jeunes sœurs, à nos mamans et à nos enfants pour qu'elles n'aillent pas vers la dépigmentation. Car la dépigmentation, quand vous la pratiquez aujourd'hui, quel que soit le nombre d'années, vous allez avoir des conséquences. Les conséquences sont très difficiles à supporter. Et quand j'ai lu « Femme rebelle » avec l'auteur principal, enfin, Monsieur Addo, oui. Hein, il a sa femme, maman Fala,
et Mémé Fala.
Mémé Fala, qui et le monsieur a d'autres, copines, concubines.
Homme femme, c'est un homme femme.
Voilà. Ouais. Donc, et ça a créé quand même un problème dans son foyer, jusqu'au décès de Mémé Fala, qui a voulu se dépigmenter. Mais ce que les jeunes font aujourd'hui, cette histoire d'injection, tous les jours, les gens vont jusqu'à chercher à faire grossir leurs fesses, leurs seins.
Ils savent que c'est ce qui est à la mode.
Oui, et malheureusement, je pense que le ministère de la Santé devait prendre cela en compte pour mettre fin quand même à ces pratiques-là qui, franchement, je continue pas à le croire. Il y a un documentaire qui est passé tout récemment sur des chaînes internationales qui a montré les méfaits de ces injonctions-là. On est allé plus loin. Les gens qui font des opérations au sein pour faire grossir leur sein, parce que il y a des hommes qui sont
qui aiment ces bombes lacrymogènes,
riches et qui adorent ces seins, etc. Mais c'est un phénomène que nous devons tout faire pour arrêter dans notre société,
tout
parce que ça décime la société, il faut le dire.
Jean-Baptiste Attisse, bonjour.
Pascal.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce à Dieu.
Voilà, nous sommes en train de parler alors de ce phénomène de dépigmentation. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, le phénomène prend de l'ampleur où on retrouve des gens qui se déclarent ou se décrètent même d'ailleurs cosmétologues. Et vous allez les voir avec des conseils et des produits sur les réseaux sociaux. Mais finalement, il est très important quand même qu'on prenne conscience, n'est-ce pas, Jean-Baptiste?
Oui, naturellement, l'homme doit prendre conscience et être fier de ce que Dieu lui donne, ou bien de comment Dieu l'a fait d'abord. Parce que nous ne pouvons pas être, comment l'appelle-t-on, rebelles ou bien ne pas nous satisfaire de comment Dieu nous a créés. Et c'est ça, surtout ça, qui pousse certains, et vous m'excusez, peut-être nos femmes, surtout la gente féminine, à se rebeller contre sa créature et désirant quand même copier ou bien imiter les autres qui ont telles caractéristiques et autres. Alors que Dieu, en vous créant, sait que ce format-là, cette manière de vous créer, de vous formater, c'est pour vous. C'est comme ça que Dieu a jugé et vous a créé ainsi. Mais l'homme étant insatisfait par nature, estime que cette façon que Dieu l'a modelé ne lui sied pas, et il faut quand même passer par des produits artificiels pour pouvoir changer sa morphologie. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec cette dépigmentation qui, ma foi, a beaucoup de conséquences néfastes sur ceux qui s'y adonnent, les auteurs masculin comme féminin de cette
surtout
pratique.
Féminin,
justement. C'est ça. Et je me rappelle encore notre compatriote, comment il s'appelle, il est à la CET, là. Il avait écrit une œuvre.
Une œuvre, pardon.
C'est lui. C'est ça, dans son œuvre qu'il a, je crois, publié l'année, il y a un an ou deux ans de ça. Et donc c'est ça, et je me rappelle le jour là, j'étais quand même présent lors de cette dédicace. Vous allez voir que beaucoup de femmes qui étaient à l'assistance étaient tellement gênées, parce que c'est comme si ça allait droit dans leur visage avec cette œuvre là, et elles étaient vraiment très gênées par l'œuvre. Mais c'est une triste réalité à laquelle nous assistons aujourd'hui, et ça fait appel à une décision interne, à la morale,
prise de conscience
et aux bonnes mœurs.
D'accord. Oui, Eric. Alors,
je voudrais ajouter ceci. Je parlais tantôt d'un documentaire qui est passé sur les chaînes internationales, et dans ce documentaire, on a cherché à connaître les produits qu'on injecte à ces femmes, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, personne ne sait ce qu'on met dans ce produit-là pour les injecter à nos sœurs.
Je pense que c'est des produits cancérogènes. Hein?
Et justement, on a fait une dénonciation générale en France, et on a constaté que malgré toute la campagne qui a été faite autour de ces produits nocifs-là, les filles se cachent toujours pour accepter ces injections. Et là, ceux qui pratiquent cela, des gens ont été condamnés. Mais qu'est-ce qu'on peut leur faire si on ne sait pas ce qu'ils injectent? Alors, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On les a amendés et certains ont été libérés. Mais dès qu'ils ont été libérés, tout de suite, ils ont recommencé, parce que la demande est très forte.
Voilà.
Et malheureusement, ces produits-là nous viennent ici sans aucun contrôle, et les gens se permettent de dire publiquement qu'ils ont des produits qui arrangent les fesses, qui arrangent les cuisses, qui arrangent les seins, etc. Et on les laisse faire. Mais dans 5 ans, 10 ans, on aura les conséquences de tout ça dans notre milieu. C'est vraiment dommage.
C'est vraiment dommage. Merci beaucoup, Claude Assiebotis. Mais tout compte fait, si vous le voulez bien, vous pouvez rester avec nous pour le débat. Et on continue alors ce débat en studio. Et Eric, c'est vous qui nous donnez le premier sujet, bien sûr, alors de ce débat aujourd'hui. Dans votre journal, l'Union, je lis ceci, dette publique du Togo en 2024, augmentation plus rapide que prévu, les réalités. Alors, on a le droit de savoir quelles sont ces réalités qui font que les dettes publiques s'augmentent alors chez nous.
Alors, il faut dire que ce test-là est un peu technique. Technique, pourquoi? Parce que l'on est parti d'une note hein, du ministère de l'économie et des finances pour faire ce papier. Parce que depuis qu'il y a eu la conférence sur la dette africaine, il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour savoir pourquoi nos dettes sont aussi exorbitantes. Pourquoi on va contracter des dettes et que finalement on ne sache en réalité où est-ce que ces dettes-là partent, c'est-à-dire l'argent qu'on reçoit, dans quoi il est mis et pourquoi on est en train de frôler le seuil. Hein, quand même, on a dit 70% du PIB. Aujourd'hui, on est à 69,7%. C'est extrêmement grave. Et donc, quand nous avons lu cette note-là, on s'est dit quand même que cela peut expliquer en partie pourquoi cette dette-là s'augmente aussi rapidement. C'est vrai, nous contractons des dettes pour des projets ou des programmes bien déterminés, sauf que sur le terrain, il y a ce que le professeur Kakonu Bukpo a expliqué tout récemment en disant que les problèmes sociaux dépassent même les problèmes structurels que nous avons. Nous recevons de l'argent, par exemple, pour construire une route, mais il faut payer cette dette-là par quels moyens? C'est par les recettes fiscales, c'est par les recettes douanières, etc. Mais nous n'arrivons pas à payer cette dette-là parce que on nous dit que même pour notre sécurité, par exemple, où aujourd'hui nous avons une situation très délicate au nord du pays, il faut investir de l'argent là-bas pour sécuriser cette partie du pays. Malheureusement, cet argent-là, nous ne l'avons pas dans notre budget. Donc, il faut aller chercher cet argent-là quelque part. Lorsque nous recevons l'argent, nous l'affectons à la sécurité, alors que les institutions de Bretton Woods auprès desquels nous contractons ces prêts-là n'acceptent pas le volet sécurité dans les programmes d'endettement. Et donc, avec ça, c'est des situations qui n'arrangent pas nos pays africains. Et donc, il faut voir aussi les recettes que nous avons. Est-ce que ça nous permet d'abord de faire d'exécuter nous-mêmes nos projets sociaux? Non. Mais les projets sont là, les programmes sont là, mais les faits nous dépassent toujours en termes financiers.
Financiers, ok. Jean-Baptiste, au-delà de tout, la question a été évoquée déjà tout récemment lors de la conférence de Lomé sur les dettes publiques, où on se demandait, mais oui, nous contractons des dettes et que Eric nous fait savoir bien sûr qu'il y a ces dettes qui sont en augmentation rapide même d'ailleurs, et par rapport à la note alors du ministre bien sûr, et c'est sur cette base là qu'il a fait ce papier, mais au-delà de tout, on se dit, mais comment se fait-il que les dettes que nous avons aujourd'hui ou que nous contractons au-delà et sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas quand même de conformité, de cohérence avec les programmes qui sont là sur le terrain.
Bien, d'abord, la première question qu'il faut se poser, comment est-ce que ces dettes sont gérées? C'est la première question qu'il faut se poser.
Ça dit la gestion alors de ces dettes.
Absolument. Et ça a fait l'objet d'un panel lors de cette conférence sur la dette publique dans notre capitale il y a quelques jours. Et je crois qu'il y avait un expert de l'Union africaine qui avait dit que le problème fondamental pour les pays africains, c'est qu'il n'y a pas réellement une cellule de gestion de ces dettes-là. Parce que quand les agents du ministère des Finances et de l'économie et des finances sont là, parfois ils ne sont pas très futés dans la gestion de ces dettes. Donc il va falloir mettre sur pied des techniciens qui seront affectés à la gestion des dettes, uniquement à la gestion de ces dettes-là publiques que les pays contractent. Et peut-être c'est ce à quoi nos pays, notamment notre pays, le Togo, doit se pencher, avoir cette cellule-là de gestion des dettes publiques. Et une autre solution qui avait été évoquée, c'est aujourd'hui la lutte contre la corruption. On voit que dans beaucoup de pays, l'opacité est la chose la mieux partagée dans nos pays.
Au-delà de la corruption, on parle de détournement.
De détournement et surtout aussi de détournement d'objectifs. Parce que mon ami parlait tout à l'heure des prêts que les pays contactent. Je crois que ces prêts ont des objectifs. Quand vous allez chez des bailleurs,
c'est bien précis.
Bien sûr, vous allez auprès des bailleurs avec un projet ou bien un programme bien déterminé. Et ces allocations de fonds qu'on vous fait, vous ne devez pas les détourner de leurs objectifs au premier. Mais curieusement, dans nos pays, c'est ce à quoi nous assistons. Il y a toujours, bien souvent, des détournements d'objectifs par rapport aux objets de ces programmes, de ces prêts qui sont accordés à nos pays. Donc ça aussi a été discuté. Donc il faut éviter et notamment les détournements d'objectifs vis-à-vis de ces crédits qui sont alloués à nos pays. Et justement, parlant de la transparence, je crois que notre pays, quand le ministre parle du fait qu'il y a un accroissement rapide, je crois que beaucoup de structures sont mises en place dans notre pays pour pouvoir lutter contre la corruption et la mauvaise gestion des ressources de l'État. Mais curieusement, nous constatons malheureusement que ces institutions ne jouent pas pleinement leur rôle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le constat général qui se fait, c'est que les finances publiques ne sont pas vraiment assainies. Et il y a beaucoup de rapports des institutions sous-régionales qui font cas du manque de transparence dans les ressources publiques. Et quand nous prenons notre cas, typiquement togolais, il y a la Cour des comptes qui est une institution qui normalement devrait jouer pleinement sa partition, mais on ne voit pas ça. Il y a la APRUSIA qui ne joue pas son rôle. Il y a l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, aussi qui est là, qui ne joue pas pleinement sa mission, et beaucoup d'autres structures qui sont là. Et il y a aussi une institution que nous ne devons pas occulter, c'est l'Assemblée nationale.
Est-ce que ces institutions ne sont pas seulement que dans leurs prérogatives? Parce que.
Oui, justement, les prérogatives font état de ce que. Quand on dit, par exemple, pour l'Assemblée nationale, de contrôler l'action gouvernementale. Mm. Le contrôle signifie quoi? Demander des comptes à l'action gouvernementale. Ce que les ministres, les membres du gouvernement font, ils doivent rendre compte aux représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale. Mais curieusement, tel n'est pas le cas dans notre pays. Et vous voyez que y a un certain nombre de rapports. Quand on prend le cas de Covid, il y a eu des fonds qui n'avaient pas été bien justifiés. À l'époque, la Cour des comptes avait sorti un rapport en ce sens concernant l'année 2021.
D'accord.
Mais on n'a pas eu de suite pour ça.
D'accord.
Donc aujourd'hui, quand on parle d'augmentation rapide de la dette, je crois qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut revoir pour assainir les finances publiques.
D'accord. Oui, Claude, c'est vrai que quand on parle alors de la dette aujourd'hui, on voit en quelque sorte le vide qui se trouve entre la dette et la réalisation également de ces ou l'exécution des projets sur le terrain. Et certains observateurs disent que, en parlant même d'ailleurs de ce fossé qui existe, il y a certains observateurs qui pensent que c'est parce que nous, Africains, nous ne sommes pas sérieux. Mais est-ce que vous êtes alors du même avis?
Oui, mais c'est ça la vraie réponse. De quoi s'étonne-t-on? D'abord, qui s'étonne? C'est les gouvernants? Mais pourquoi ils doivent s'étonner? On ne sème que ce qu'on a, on ne récolte que ce qu'on a semé. Ce problème, à mon avis, c'est un lieu commun, on en a parlé. Notre pays, c'est des pays pillés avec la complicité de ce que nous appelons nos bailleurs. Moi, j'étais encore jeune lorsque je lisais des rapports de... J'ai oublié son nom, le fondateur de Survie, il y avait un G là, qui a écrit des livres, et montrait comment l'argent que nous prêtait, comment ce chef d'État s'entendait, ce chef d'État noir s'entendait encore pour envoyer une partie de la liquidité débloquée à leurs amis de l'Hexagone, par exemple. Et c'est un scandale. Et puis, vous avez remarqué que dans nos pays, ce qui intéressait Bayer, ce n'est pas le sérieux des gouvernants, ce n'est pas les garanties de transparence dans la gestion. Et c'est pas ça qui est vrai, c'est la stabilité. Et quelqu'un qui est capable de mettre la stabilité, même pas la terreur, l'essentiel, c'est que le service de la dette continue. Et moi, je vous renvoie à quelqu'un qui fait admirablement le travail au Togo. C'est Kumu,
Dodi. Oui, veille économique.
Vous l'écoutez, mais il dit les choses d'une façon très précise et rapporté à ce que vous voyez vous-même sur le terrain. Vous voyez ce qui se passe. Hein? On est dans une toile d'araignée, un vol organisé, et dont on ne doit pas s'étonner. Hein? Pour moi,
d'accord.
C'est où se trouve le problème.
D'accord. Eric, c'est vrai que tout récemment, il y avait eu cette augmentation du tarif d'électricité. Il y a le ministre de l'économie et des finances qui a sorti une note ou une lettre circulaire. Et dans cette lettre, le ministre a fait un certain nombre de précisions sur cette augmentation. Le ministre dit, je lis, en quelque sorte, je lis cette partie ou cet extrait de la lettre. Dans le cadre de la réforme de la gouvernance publique et de la rationalisation des charges supportées par le budget de l'État, il a été décidé de mettre un terme à la prise en charge par le Trésor public des factures d'eau et d'électricité relatives aux résidences personnelles ou privées des ministres. À cet égard, le Trésor public prendra toutes les dispositions avec la compagnie Énergie électrique du Togo CET, ainsi que la Togolaise des eaux, TDE, afin de permettre aux intéressés de s'acquitter personnellement de leur consommation d'eau et d'électricité à usage domestique à compter du 15 mai 2025. Alors, quand vous avez reçu, puisque ça a circulé sur les réseaux sociaux, je veux bien parler alors de cette note circulaire. Eric, quelle a été votre réaction?
Non, peut-être que je vais vous étonner encore, parce que moi, j'ai eu à travailler énormément sur la question de l'énergie et surtout sur tout ce qui entoure la dette de la CET. Vous vous rappelez, j'avais fait même un papier là-dessus tout récemment. Mais je pense que cette note circulaire-là n'explique pas en réalité ce qui se passe. Je vais vous expliquer un truc très simple. Vous savez, quand les gens disent que les ministres ne paient pas l'eau, ne paient pas l'électricité, c'est que, comme je dis souvent, il n'y a rien de gratuit. Quelque chose qui vous est donné gratuitement, c'est que quelqu'un l'a déjà payé quelque part. Et je vous avoue que les factures de ces ministres, de ces directeurs, ces factures-là, sont regroupés quelque part et c'est payé par le Trésor public à la CET. Et donc, ça ne veut pas dire que leurs consommations ne sont pas payées. Par contre, ce qui se dit souvent, c'est que les gens, au lieu d'avoir une résidence qui est reconnue par l'État, peuvent avoir deux, trois résidences. Et donc, toutes ces factures-là sont rassemblées et envoyées au Trésor public pour que cela soit payé à la CET. Et je peux vous dire, selon mes informations, qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ces factures-là sont régulièrement payées à la CET. Et j'ai même une idée sur ce que ça représente en termes de coûts pour l'État, et etc. Donc, je dis, pour moi, cette circulaire-là signifie que si vous avez vous résidez quelque part, désormais, vous allez payer. Parce qu'il y a, il faut pas l'oublier aussi, qu'il y a des avantages liés à certaines fonctions. Et c'est donc à partir de là que ces factures-là sont regroupées quelque part pour être payées. Et donc, pour moi, je dis, oui, c'est peut-être une injustice qui est en train d'être réglée de cette manière, mais il ne faudrait pas penser que les factures-là ne sont jamais payées.
D'accord, la précision est très importante. Oui, mais Jean-Baptiste, au-delà de tout, c'est des, en quelque sorte des privilégiés de la société, parce que ces privilèges-là sont liés à leur rang de ministre ou de leur fonction, mais aujourd'hui, c'est décidé qu'eux-mêmes, ils doivent payer personnellement ces charges-là.
Bon, Pascal, vous voyez que dire qu'ils sont des privilégiés, bon, peut-être en se référant à leur fonction, mais je crois qu'ils ont eu à faire beaucoup de tort au peuple togolais, parce que l'un parmi eux a quand même fait un audio qui circule sur les réseaux, et il a parlé de 4 millions de factures de CET mensuelles pour un ministre. Imaginez qu'ils sont une trentaine de ministres dans le gouvernement. Quand vous multipliez 4 millions par 30, ça fait 120 millions le mois. Et si vous multipliez par 12 dans l'année, ça fait 1 milliard 440 millions. 1 milliard 440 millions. Ça, c'est pour ce qui concerne la CET. Pour l'eau, on ne sait pas combien ils consomment.
Et ceci, c'est au dos du contribuable.
C'est au dos du contribuable. Donc, quand moi j'ai fait ces calculs, je me dis que ça fait trop mal, parce que ils ont un salaire et ils devraient quand même, avec justement un certain nombre d'avantages, ils doivent quand même payer ces factures-là de leur salaire ou bien de leur rémunération en général. Parce que ce n'est pas seulement un salaire, mais il y a beaucoup de primes qui s'ajoutent et ça devient une rémunération. Donc, ils devraient quand même le faire. Mais si on doit, depuis plusieurs années, on a laissé le peuple togolais subir cette prédation-là, jusqu'alors, je crois que ça a été trop méchant envers le peuple togolais. Et figure-toi bien, on parle des ministres, ça. Alors, le chef de l'État, ou aujourd'hui, le président du Conseil, combien lui consomme? Ça aussi, c'est une question. Si on veut vraiment travailler pour la transparence, l'assainissement des finances publiques, il faut quand même que cela, qu'il n'y ait pas de super Togolais. Qu'il n'y ait pas de super Togolais. Donc quand moi j'ai vu ça, je me dis que c'est vraiment dommage que le peuple togolais ait subi cela jusqu'à ce jour. Mais si le titre doit être rectifié, il faut que cela le soit sincèrement, parce que une circulaire du ministre de l'économie et des finances, bon, est-ce qu'on peut en faire foi? Parce que aujourd'hui,
mais ça vient de l'autorité.
Ça vient de l'autorité, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que le Togolais lambda aura l'occasion de vérifier? Parce qu'on nous dit que c'est le Trésor public qui paye. Bon, on estime que les inspecteurs du Trésor quand même veilleront à ce que le Trésor public ne continue plus pas à payer ses charges des acteurs étatiques, pour que le peuple togolais puisse souffler un peu. Et déjà, depuis quelques jours, déjà, vous voyez comment la population est en train de crier. Si vous allez au niveau de la CET, vous allez voir comment les consommateurs viennent pour crier leur ras-le-bol face à peut-être le paiement des nouvelles factures ou bien les prépayés. Voyez comment, moi, j'ai fait un tour hier dans une agence, ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés et qui criaient vis-à-vis de ces agents-là qui étaient en service.
D'accord. Claude, c'est vrai que quand on prend ces privilégiés de la République qui ne payaient pas, mais maintenant avec la circulaire, il semble qu'ils doivent payer personnellement leurs charges. Mais au-delà de tout, il faudrait quand même que des dispositions soient prises pour qu'on ait une transparence également dans le paiement alors de ces charges.
Moi, ce qui m'ennuie dans ce pays, c'est cette propension à apporter des petites solutions aux problèmes graves et créer tout un tintamarre autour. Hein? Et moi, je ne vois pas. si on veut faire payer au ministre la facture, c'est une idée qui n'est pas mauvaise nécessairement, pour rompre avec la mauvaise habitude. Mais ça, là, on n'a pas besoin d'en faire des scoops de la presse. C'est sans cette propension, hein. Moi, c'est ça qui m'ennuie dans ce pays. Lorsqu'on veut résoudre un problème, les problèmes graves doivent avoir des solutions sérieuses. Hein. Et on ne donne pas des doses d'aspirine à quelqu'un qui a fait un accident de circulation. C'est ce que moi, j'observe souvent dans nos habitudes. Moi, c'est ça qui m'ennuie. Hein. Il y a des problèmes graves. Et pour parler sur ce dossier de l'électricité, il y a quelque chose, un message de quelqu'un qui a fait la boîte, qui a circulé, à Mouspeto, je crois.
Oui, tout à fait. Oui.
Est-ce que c'est authentifié? Est-ce que c'est lui? Moi, ma question se trouvait à ce niveau. Si c'est authentifié, si c'est lui, mais c'est un scandale. Et face à ce scandale, qu'est-ce qu'on en dit? C'est ça la solution? C'est ridicule, mon avis.
D'accord. Alors, on va parler maintenant politique. Et, on s'intéresse à ce sujet lors de la conférence des évêques du Togo. Cette réaction sur l'évolution de la situation sociopolitique du Togo. Les évêques notent que le pays a officiellement basculé le 3 mai dernier dans la 5e République dans un contexte de forte crispation, de lourdeur dans les cœurs et de frustration générale provoquée par des conditions de vie précaires des populations. Et Eric, en suivant cette réaction de la conférence des évêques du Togo, quelle est votre analyse?
Mon analyse?
Oui, par rapport sur les évêques.
Les évêques aussi ont fait leur analyse.
Leur analyse alors de la situation.
Non, mais je pense que en étudiant un peu les livres sur la politique interne du Togo et africaine avec Claude, on a eu à évoquer tout ça. Et je crois que c'est de bonne guerre. Quand vous êtes des responsables au-delà de tout, hein, spirituels pour des citoyens, lorsqu'il y a des difficultés, vous devez quand même leur parler. Vous devez quand même dire un mot, peut-être pour apaiser les cœurs, peut-être pour appeler les uns et les autres à s'asseoir pour discuter. Et je crois que c'est ce que les évêques ont fait en demandant quand même un dialogue plus sincère, un dialogue inclusif, et que tout le monde puisse apporter quand même sa pierre à l'édifice. Je crois que c'est de ça il s'agit. Moi, en lisant tout ça, ma conclusion, c'est bien cela, que vous avez une crise soulevée par un changement de constitution, et donc certains ne sont pas d'accord, donc il faut vous asseoir, discuter et trouver les meilleures solutions.
Mais Jean-Baptiste, c'est vrai que les évêques n'ont pas marché leur mot, hein, c'est-à-dire ils sont allés en thème cru. Par exemple, je vous lis cet extrait de la déclaration des évêques. Les évêques disent « Une conviction nous habite, le pays court un risque en couvant les frustrations, car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Les peurs et les frustrations tuent et se muent en hâte désespérée et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. » Là, déjà, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ils ont dit ce qu'ils pensent.
Oui, justement, je crois que hier, quand j'ai lu le message que les évêques ont sorti, je me suis dit enfin, parce que depuis la mort de Monseigneur Kodjo, suivi quelques mois plus tard par celle de Bariga, on a cru que l'Église catholique au Togo est devenue aphone. Mais hier, avec cette sortie, je crois que enfin les évêques se réveillent. Parce que depuis un an où la situation est crispée dans notre pays, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les religieux dans leur globalité se taisent devant la grave crise politique que connaît notre pays, on ne pouvait pas s'attendre à ce mutisme, puisque généralement on sait que au Togo les autres religions qu'elles m'en excuse, on ne les sent pas dans les crises sociopolitiques que connaît notre pays, on ne les sent pas. Sinon, ce sont des déclarations peut-être fantaisistes que certaines de ces organisations sortent. Et c'est seulement l'Église catholique qui joue vraiment, qui compatit à la douleur du peuple togolais. Mais hier, j'ai quand même senti que l'Église catholique s'est réveillée, du moins à travers cette déclaration. Mais je crois que les évêques doivent aller au-delà.
Mais aller au-delà, ça veut
aller
dire quoi?
Au-delà en posant des pas. En posant des pas, par exemple, demander directement, s'il faut écrire directement au président du conseil, demander une audience. Parce que la situation que nous vivons, c'est une situation terrible. Et ils ont bien décrit cela dans leur message. Parce qu'on ne peut pas croire à un peuple ou croire à l'opinion que le peuple togolais se tait. Et donc, tout la résilience est synonyme de, comment l'appelle-t-on, de résignation. Le peuple togolais n'est pas résigné, ne s'est pas résigné. Et les gens ont beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, quand on croit que parce qu'on a les armes, parce qu'on a peut-être l'argent aussi, pour faire croire à l'opinion que le peuple est derrière cette modification, on essaie de regrouper des gens avec 2000, on leur distribue pour faire des images, pour montrer à l'opinion internationale que oh, la population est derrière cette modification. Je crois que ces manipulations sont d'une époque révolue. Et aujourd'hui, beaucoup de Togolais ne sont pas pour cette constitution-là. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a la force, parce que certains députés se disent représentants du peuple et donc ils vont faire contre la volonté du peuple togolais et imposer cela à la population.
D'accord.
Ce n'est pas du tout normal.
D'accord. C'est vrai que face à cette situation, les évêques demandent aux autorités togolaises de prendre conscience du malaise grandissant au sein de la population, d'entendre la voix du peuple avec respect et prise en considération et d'engager un processus d'apaisement avec discernement à travers la tenue d'un véritable dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'ils seront écoutés?
Et ça, justement, tu as posé la bonne question, mais je n'y crois pas. Et moi, j'ai lu le texte, je suis avant tout, ou après tout, un professeur de français. Les mots sont tellement bien choisis, les mots sont à leur place. Il y a un pasteur qui a l'habitude de me dire, oh, les prêtres là, ce n'est pas des pasteurs, c'est des intellectuels. Heureusement, hein? Et les mots sont à leur place. Et c'est bien dit, tout ce qu'ils ont dit là, ils ont traduit l'atmosphère qui pue, hein, ça pue dans le pays, hein, dont on ne prend pas conscience, ou on n'en prend pas conscience, soit on n'a pas les solutions, soit on est aveuglé par ses intérêts. Et dans les deux cas, nous sommes dans l'impasse. Dans les deux cas, nous sommes dans l'impasse. Mais des autorités comme ça, tout ce qu'ils ont à leur possession, c'est les mots. Hein, c'est les mots. Qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce qu'ils seront écoutés? Bon, tout le monde connaît le Togo. Hein? Ça fait combien d'années nous y sommes? Hein? Et si ce n'est pas dans le sens de l'intérêt du pouvoir, et ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas. Est-ce que la population... oui, moi, je l'ai toujours dit. Leur désir, leur volonté n'est pas nécessairement de martyriser la population. Mais c'est que c'est toujours souvent incompatible avec leurs intérêts. Et ces intérêts-là passent avant l'intérêt de la population. C'est ça le danger. Et tant que la machine fonctionne comme ça, ça peut se gripper un jour, et ils l'ont dit. Hein, ils l'ont dit quelque part là. On ne sait pas à quoi. Parce qu'il n'y a pas de peuple résigné. Hein.
Pas du tout.
Ça n'existe pas. Hein. Lorsque la marmite bout, vous ne savez pas à quand est-ce que ça arrive à 100 degrés. Hein. Et les gens qui sont en haut ne savent pas ce que les gens souffrent en bas. Hein. Ils ne savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Et lorsque ces choses-là arrivent dans d'autres pays, ils se disent que c'est pas notre réalité. Et parfois, l'impression que, qu'il donne nos autorités, c'est que, qu'elle donne nos autorités, c'est que, elle croit bien faire. Elle croit bien faire. Est-ce que c'est de la mauvaise foi, ou de l'injure, ou de
mépris.
De mépris. Et eux ont utilisé le mot le mépris.
C'est ça.
Ça fuse le mépris. Voilà,
voilà.
Oui. Quand entre eux, ils doivent se parler. Il faut qu'ils se parlent. Il y a des gens parmi eux. Il y a des gens, ils voient. Des gens, qui voient. Il faut qu'ils se parlent entre eux. Hein, au coin de la chambre, hein, c'est ça.
D'accord. Oui, mais, Eric, je vous repose ou je vous pose la même question. Est-ce que les autorités religieuses, hein, c'est-à-dire les évêques, seront écoutés?
Mais le tout dépend. Vous savez, lorsque je le dis toujours, hein, ce n'est pas faire preuve de résignation. Mais lorsque vous voulez parler à quelqu'un, vous l'incriminez d'abord avant de lui parler. Vous savez, lorsqu'on a un ton qui frise parfois de l'injure, je pense que le dialogue est très difficile. Et je me dis toujours que y a un adage qui dit chez nous que pour prendre quelque chose à un chef, la rôle les fiosia, blablabla, allô, c'est pas ça. Il faut pas aller avec cette manière-là d'incriminer d'abord le chef pour lui dire que tu es mauvais avant de venir lui demander quoi que ce soit.
Mais est-ce
parce
que ça
aujourd'hui,
est-ce que ça ne traduit pas aussi la réalité?
Aujourd'hui, je n'en dis qu'on vient pas, mais aujourd'hui, il y a une situation. Si les prêtres ont été approchés par une certaine frange de la population, je crois que ceux-là qu'on accuse aussi sont de la population. Nous constituons ensemble ce qu'on appelle le pays, les Togolais. Mais on ne peut pas mettre la distinction entre les Togolais du bas et les Togolais du haut. Je crois que cette manière de voir la chose déjà fausse un peu le problème. Toutefois, je me dis qu'il faut forcément ce dialogue-là. Il faut que les gens se parlent.
D'accord, il faut que les gens se parlent.
Non, si les prêtres vont être écoutés, c'est à travers ce dialogue-là qu'on saura. Parce que à l'heure où nous parlons, personne ne peut le savoir. Tout simplement.
Oui, mais Jean-Baptiste, c'est vrai que les prêtres disent et ils saluent la résilience et la maturité alors du peuple togolais qui continue de faire preuve de patience et de dignité malgré les épreuves. Et je lis bien ce extrait, mais la résilience est loin d'être synonyme de résignation. Rappelons par ailleurs que la paix véritable ne peut se construire sans la justice, la vérité et un dialogue sincère. Nous exhortons, c'est bien les prêtres qui parlent, nous exhortons tous les acteurs de la vie nationale politique, société civile, forces de défense et de sécurité, confessions religieuses à œuvrer ensemble pour préserver l'unité, la paix et l'avenir de notre pays, le Togo. Alors, au-delà de tout, les prêtres, on pourra dire quand même qu'ils appellent à une assise nationale.
Oui, naturellement. Et ta question, c'est de savoir si ces autorités religieuses seront écoutées. C'est la grande question que tout le monde se pose parce que dans notre pays, le pouvoir se croit une super institution qui est là et qui décide à la place de tout le monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On gouverne des êtres humains et il faut aussi faire valoir leurs humeurs, leurs opinions. Mais nous constatons malheureusement dans notre pays que, bon, quand on est au sommet, on croit que tout est permis et que les autres n'ont pas leur opinion sur les décisions à prendre. Alors, tel n'est pas le cas. Sinon, si on dit chaque fois nous prenons la paix ne tombera jamais du ciel. Ce sont les humains qui doivent être des acteurs, des auteurs de la paix. Et donc, comme l'a dit l'ancien feu pape François, la paix ne tombera jamais du ciel. Il faut que les hommes soient réellement ces acteurs. Donc, si les membres du gouvernement, chaque fois, quand ils sortent, on veut un Togo de paix, Togo de paix, la paix doit se construire par tous les Togolais.
D'accord.
Si vous vous imposez aux gens et que vous dites que vous voulez la paix doit être co-construite.
D'accord, merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est le principe de l'émission. C'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35 et 91 36 63 75. Ils peuvent nous écrire également sur notre numéro WhatsApp, 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 également et nous écrire hein, sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Notre premier auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Il n'est pas en ligne. Bonjour, Canal FM, le trésorier payeur avait sorti un communiqué. Voilà, il est là. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
Voilà, Sylvain, allez-y.
Oui, je salue tous les confrères qui sont au studio avec vous.
D'accord, merci.
Franchement, est-ce que ceux qui sont en haut, ils savent que les Togolais qui ne viennent pas la queue? Franchement, si un jour on nous amène à tirer ce diable par la tête, nous serons tous morts. Et si on tire le diable par la queue, nos institutions sont toutes en place. Mais il paraît que ces institutions ne sont pas fortes. On a que des hommes forts à la place de ces institutions. Forts, c'est-à-dire FORT, hein. Pas avec AULE. Il faut qu'on ait des institutions fortes. Et puis l'impunité. On ne punit pas les gens. Quand on commet des gaffes, on les laisse, on dit l'enquête est en cours. L'enquête est en cours. Et c'est ça qui nous amène à tirer les gens par la queue. Franchement, on en peut plus.
D'accord. Merci Sylvain pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Le trésorier payeur avait sorti un communiqué que nos ministres ne paient pas leur facture d'électricité à la société. Le ministre des Finances vient de sortir une circulaire disant qu'à partir du 15 mai passé, les membres du gouvernement vont régler leur facture d'électricité et d'eau. Pourquoi votre collègue Eric veut dédouaner les ministres non payeurs dont un a climatisé son garage en ajoutant que ses factures sont payées quelque part et il a des preuves. C'est Léonin et qui nous écrit depuis Nyekonakwe 90 86 35 35. Allô?
Bonjour Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Ça peut aller, chez vous?
Ça va aussi, Patrick?
C'est Patrick.
Oui, allez-y, Patrick.
Bon, c'est comme le message que vous venez de dire là, prêt à ce que je vais dire. Monsieur Eric, eh bien, il a fait son analyse. Il a l'habitude de ne pas critiquer les analyses des journalistes. Mais, s'il nous dit, je suis d'accord avec lui aussi, que quand quelque chose est gratuit, c'est qu'on a déjà payé ça quelque part. C'est normal. Maintenant, si on veut donner comme argument, le trésor paie ses factures. Mais qu'est-ce qui dépose l'argent au niveau du trésor? L'argent provient d'où? Pour que le trésor puisse régler ses factures. C'est au niveau des contribuables, c'est tout ce que nous dénonçons. Si on veut dire que c'est déjà payé quelque part et que et ça n'a rien à voir que la suite ne perçoit pas, ça, ce n'est pas notre problème. Pourquoi est-ce que la finance doit payer la facture de ces ministres-là? Or, ces ministres ne sont pas au Sénégal. Ces ministres ne sont pas à 100 000 près. Vous voyez ce qu'on veut dire par là. Mais pourquoi ça? Pourquoi le trésor doit payer ces factures-là? Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Il y a notre message. Bonjour pour les ministres. Que la société change leur compteur par des prépayés. C'est Malou Siba qui nous écrit 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse, bien sûr. Allô?
Bonsoir, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, togolaisement.
D'accord, allez-y.
Je salue Claude d'abord.
Oui, Claude te salue aussi.
Et les autres en studio. Pour lui demander, est-ce que c'est qu'on a fermé le collège dans lequel il m'avait eu en français en seconde, en 83 là. Et puis, son cette prière à Dieu de Voltaire, j'ai gardé ça en souvenir jusqu'à présent. Je suis sûr que lui, il sait que le collège est capoté par la mauvaise gouvernance, par la mal gouvernance. Et là, on en arrive à la populaire. Et moi, je dis que c'est du bluff quand on dit que les ministres vont finir quelque chose. Nous ne paierons rien. Parce que dans ce conseil de ministres, pendant lequel le ministre Iwa a voulu dénoncer, c'est le président, il y a quelques semaines, président du conseil des ministres, soit M. Paul et Ferdinand Nyampoule. C'est lui et quelques ministres qui se sont fâchés contre M. Iwa. Mais si on sait qu'il est toujours là, pourquoi est-ce qu'il va se désir maintenant? Il ne va pas se désir aujourd'hui. Pour lui, c'est normal que... Bon, il pleut chez moi, je vais crier un peu. Pour lui, c'est normal que les ministres vivent sur le dos du contribuable togolais. Et comme lui-même, il nous le fait pendant au moins 20 ans, on n'arrive pas à manger même une seule fois par jour. Voilà, c'est ce que moi, je veux ajouter.
D'accord.
On dit qu'on fait ça quelque part. Du bluff, hein. Merci.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Le Togolais veut voir un rapport de la Cour des comptes sur ce dossier de la société. C'est M. Pelé qui nous écrit depuis Doulassa, 90-86-35-35. Allô?
Oui, Pascal, bonjour.
Bonjour, Évangéliste Senghor.
Comment vous allez?
Ça va pas la grâce.
Je salue le plateau. Moi, je voudrais interpeller tous les Togolais du sud au nord, du nord au sud. Nous tous, nous allons mettre le genou à terre pour implorer notre Seigneur sur le Togo. Monsieur Pascal, dans quel pays vous avez vu plus d'un mois après le gouvernement? Vous, les journalistes qui sont placés là-bas. Dans quel pays? Avec le général Obabon. Mais là, demain, il a connu son gouvernement. Donc, je salue vraiment les vedettes du Togo. Ce sont des Togolais comme nous aussi. Mais ils pensent à leur nation. Ils pensent au Togo, c'est-à-dire que le chef pays de Togo. Mais ce n'est pas le moment d'aller sur un terrain stade-là, habillé en blanc, et dire que nous sommes en train de faire l'action de grâce à Dieu, à tel Dieu. Dieu que nous connaissons tout cela. Là où le Togo se trouve actuellement, c'est quoi? C'est demander à Dieu de nous pardonner. Et demander à Dieu qu'est-ce qu'il peut faire. C'est pas aller danser sur un stade. C'est ça, c'est du bluff. Donc je voudrais que tous les Togolais, mais un ami ne peut même pas. Ça, il ne peut pas taper en faire le bord du maïs à lui, ça, il dans ce pays. Monsieur le journaliste, il est temps que tout le monde soit sérieux. Le PCM, il est venu aujourd'hui, premier ministre, là, l'état de faire la fin. Il faut que tout le monde soit de leur mentalité. Nous sommes là pour un petit temps. Nous allons quitter ce monde. Si on pouvait partir, mon grand-père, là, demain, allait partir avec le Togo et tous les habitants togolais. Il est parti, la petite.
Merci beaucoup, Evangeliste Senghor, pour votre intervention. Bonjour, chers tous. Je suis désolé d'entendre que faire l'état des lieux d'une situation, c'est dire des accusations. C'est dommage de tenir cette logique. Les évêques sont déjà trop complaisants envers les autorités soi-disant togolaises, celles qui forcent la vie d'un peuple hanté par la peur. Que Dieu nous vienne en aide. C'est un message écrit par Kelly. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Ça va,
c'est monsieur Mawona.
Oui.
D'accord, allez-y.
Comment vous allez?
Ça va. On dit merci à Dieu.
Salut, plateau aussi.
Oui.
Monsieur Pascal, moi, je voudrais demander, le ministre là, qu'est-ce qu'il rapporte réellement au pays, à ce pays? Qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille à faire partir au pays? C'est ce que je veux comprendre, quoi. Je veux que les jeux plateaux ne puissent nous répondre ça. Je veux que tu réponses. Qu'est-ce qu'il rapporte réellement à ce pays? Depuis, on n'a pas commis le gouvernement, le pays n'a pas ça. Le pays ne fonctionne pas. ils ont tous cette idée. Ils ont quoi? Et s'ils n'existent pas, le pilote pas avancé ou que le pilote pas évolué. Ils ont dans tous cette idée. Même quand le nom en même temps, on nous donne, c'est-à-dire, s'il y a une habitude là, s'il n'y a pas le bouton, il n'y a pas la voie, on place la voie jusqu'à leur maison. Qu'est-ce que c'est le président de la société de ce pays? Et qu'il y a quoi? Il manque à gagner pour ce pays. C'est le comme le bon papa.
D'accord. Oui, merci, Monsieur Mahouna. Bonjour, Monsieur Pascal et le panel sur le plateau. Bravo à la conférence des évêques pour son message clair et limpide. Enfin, félicitations aux journalistes qui décryptent pour nous les documents administratifs difficiles à analyser pour le citoyen lambda. Excellente suite de journée à tous. C'est Kokou David Pozo. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Yohannes.
Ah, Yohannes, oui, allez-y.
Oui, je salue le plateau. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas à quel moment on sent le besoin de dire que si les ministres ne paient pas la facture, c'est parce que c'est payé quelque part. En fait, c'est inutile de le dire parce que personne n'a dit le contraire. Mais je me dis, si on n'a pas un esprit de défense, de faire la défense de l'avocat du diable en soi, on ne peut pas se pencher sur ça comme si c'est ça le sujet. Dire que c'est payé par le trésor public, ce n'est pas ça le débat. C'est qui le trésor public?
Ah, Yohannes nous a quitté. Yohannes, vous pouvez rentrer ou revenir hein, puisque nous avons encore quelques minutes avant de clôturer les manifestations téléphoniques. Bonjour Canal FM. Le calcul du journaliste montre que ces ministres doivent rembourser ces montants colossaux par leur salaire puisque certains d'entre eux ont fait plus de 15 ans au poste de ministre. Alors imaginez ce que ça coûte aux contribuables et il faut tout de même viser les directeurs des sociétés publiques et certaines maîtresses de nos autorités. Il faut rendre une justice sociale. La population togolaise a la tête sous l'eau. C'est Ibrahim qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 33, 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est...
Oui, c'est la première fois que j'appelle une ronde de votre radio.
Oui.
Je suis à Mekonakwe.
Votre nom?
Jacques.
Jacques, allez-y.
J'ai été surpris ce matin de voir, de constater une anomalie. Je ne sais pas si c'est une anomalie ou bien c'est quoi que tu fais sur le site. Donc, j'ai l'habitude d'acheter du cash power pour 1500 francs. Quand j'en ai pour 1500 francs, j'ai 12,6 kWh. Ce matin, j'ai acheté au même prix et je vois sur mon téléphone le message 3,9 kWh. J'ai rien compris en cela. Je ne sais pas. Franchement, j'ai rien compris. C'est mon inquiétude.
D'accord. Merci. Bonjour Pascal, bonjour le plateau. Jusqu'au moment où la Suède augmente les frais d'électricité à 13%, la note du ministre demande au ministre de régler dorénavant leurs factures d'eau et d'électricité. Donc, les 13% servent à payer simplement leurs factures. Ne nous trompons pas et le Togolais voit clair. Aujourd'hui, c'est Kokou qui nous écrit depuis Adido Gomé, 90, 86, 37. 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est Monsieur Mauto.
Oui, salut le plateau.
Oui, salut, allez-y.
Si Monsieur Evry, vous pouvez me répondre. Il n'a qu'à me dire au nom de quelle loi ceux qui gagnent beaucoup dans une revue ne vont pas payer l'électricité. Et nous qui tirons le diable par la queue, nous allons payer l'électricité. Si le trésor public paie l'électricité pour les ministres, pourquoi on leur demande encore de payer? Certains ministres, on leur. Dans leur maison, hein. On a fait un branchement direct. Il n'y a pas les compteurs. Comment est-ce qu'on paie leur électricité? Si M. Eric peut me répondre cela. Merci, bonne émission.
Merci à vous, M. Mauto, pour votre intervention. M. Mauto, c'est le dernier auditeur hein, pour le compte alors de cette émission de ce mardi. Bonjour, Monsieur Pascal. Je salue le plateau. Je remercie d'abord nos évêques pour leur démarche, bien que cela arrive un peu tard, car les Togolais sont en train de pleurer dans leur chambre, tout simplement parce qu'ils n'ont personne qui va les sauver. Et on dit chez nous que c'est quand quelqu'un pleure qu'il faut lui nettoyer le visage de deux pour se qui concerne les ministres et autres autorités à qui on avait demandé de payer leurs factures, c'est encore du bluff. Ça, c'est tout simplement pour amener les Togolais à accepter de payer leur consommation de courant sans rien dire. Sinon, depuis qu'on a demandé aux autorités de déclarer leurs biens, qu'est-ce qui est fait jusqu'à maintenant? C'est Edem qui nous écrit. C'est avec cette réaction, bien sûr, d'Edem que nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Eric, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur
l'actualité. J'ai beaucoup été interpellé.
Justement, vous avez été interpellé par
les auditeurs. Je pense qu'il faut, il faut écouter cette émission-là avec beaucoup de discernement. Quand vous n'avez pas une information et que nous, nous faisons le travail de journalisme pour pouvoir vous les donner, excusez-moi, si vous n'êtes pas convaincu, je pense qu'il faut aussi faire un autre travail d'investigation. Nous, nous avons pour devoir d'informer et nous vous informons et c'est à vous de faire vos analyses par rapport à ça. Mais s'attaquer à un journaliste qui est sur le plateau parce qu'il a donné une information, je crois que c'est un peu malsain. Je voudrais dire tout simplement que tous ceux qui ne sont pas d'accord, quelqu'un vient de dire que les ministres n'ont même pas de compteur chez eux. Je ne sais pas comment ça se fait. Que quelqu'un qui a un domicile, il a le courant mais il n'a pas de compteur. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça relève d'une autre technicité que nous ne connaissons pas. De l'autre côté, il y a certains qui ont écrit que on veut faire quoi? L'avocat. Ah, non, c'est monsieur, je crois, Johannes qui parlait d'avocat du diable. Je ne sais pas qui est l'avocat ici et qui est le diable. Moi, je donne une information. Monsieur Johannes, oui, je le connais, je sais qu'il a cette habitude-là, souvent quand il l'appelle, mais je voudrais lui dire que ces informations-là, je ne sais pas si lui-même, en tant que citoyen, pourra les avoir, mais c'est des journalistes, des gens qui sont dans le métier qui peuvent avoir ces informations. Moi, je peux... si vous voulez, on va revenir sur cette histoire de la CET. Je vais vous donner des informations que peut-être les gens, même des confrères, ne connaissent pas. Vous savez, par exemple, quand les gens vont crier sur les agents de la CET aujourd'hui, parce qu'il y a eu une augmentation de tarifs, vous savez à quel pourcentage on a augmenté chez ces gens-là, les agents de la CET? C'est plus de 300%.
Ah bon?
Et moi, c'est une information que je vous donne.
300%?
Oui, pour les agents de la CET.
Par rapport à ce qu'ils payaient.
Par rapport à ce qu'ils payaient. Et quand vous prenez tout ça, quand on dit 12,5% d'augmentation, c'est une moyenne. Parce qu'il y a des augmentations de plus de 100%, de plus de 200% pour certaines catégories. Et je vous dis que pour les agents de la CET, c'est 300%. Et donc, c'est tout ça là, en moyenne, qui nous donne les 12,5%, pas autre chose. Et je crois que, comme je le disais tantôt, et certes, quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, que quand il y a quelque chose qu'on donne gratuitement, c'est qu'il y a quelqu'un qui paie quelque part. En le disant, c'est que le ministre qui ne paie pas ses factures, parce que ça, c'est gratuit chez lui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paie et c'est le contribuable togolais qui paie. Il faut comprendre les phrases à travers ce que nous faisons. Donc je crois que finalement je vais parler de excuse-moi parce que j'ai été interpellé par rapport aux évêques. Mais je dis les évêques ont fait leur analyse et ils ont dit les choses. Kolda dit qu'ils ont dit les choses crues. Et je crois que c'est aussi leur manière de voir les choses, c'est aussi leur manière de s'exprimer. Parce qu'ils estiment que la population les attend quelque part. Et donc, ils se sont exprimés. Mais je dis, si nous devons aller discuter, parler,
il faut aussi que le ton soit vraiment apaisant. Moi, je ne viens pas ici pour que, après, quand je quitte, les Togolais vont encore s'énerver. Les gens sont déjà énervés. Moi, tout ce que je peux leur faire, c'est de leur donner des informations qui puissent leur permettre de comprendre mieux les choses et d'apaiser leur cœur.
Merci beaucoup, Eric. Oui, Jean-Baptiste, 30 secondes.
Non, je crois que 15 secondes.
Oui, mais puisque notre train est déjà avancé, s'il te plaît.
Ok. Au fait, en ce qui concerne cette histoire de CET, je crois qu'il n'y a aucune disposition qui dise qu'on doit quand même. Le peuple togolais doit supporter les frais d'électricité des ministres parce qu'eux aussi ont leur salaire. C'est avec les salaires ou bien leur rémunération qu'ils doivent payer, comme tous les autres citoyens. Leur charge.
Oui, nous avons mené déjà le débat, bien sûr.
C'est ça, c'est clair. Maintenant, concernant les hésitations dans la formation du nouveau gouvernement, je crois que ça, c'est une caractéristique que nous avons au Togo. Chaque fois, quand il y a peut-être une élection, au lendemain d'une élection, il faut attendre un mois, deux mois avant une nouvelle équipe gouvernementale. Je crois que ça, cette façon de faire, ça ne donne pas vraiment du crédit D'accord. sur ce qu'on fait.
D'accord, merci beaucoup. Oui, Claude, 30 secondes.
Une phrase. Je crois que ce que les évêques ont indexé, sous-entendu, c'est cette histoire de la 5e République. Hein. Et nous sommes dans un contexte et il faut faire attention. Et ça ressemble à un Rubicon qu'il ne faut pas franchir. Moi, je demande aux gens de l'UNIR de se parler, de parler entre eux. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Hein. L'homme est capable de sursaut. Et je compte sur eux. Merci.
D'accord, merci. Merci Claude Siobotis, analyste et critique littéraire. Merci d'être passé alors dans cette émission. Et merci à vous, Eric Pacoudjo-Johnson. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé. Merci à Jean-Baptiste Atisso pour ta contribution également à ce débat. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde et vous êtes également directeur de publication du journal en ligne corpsdiplomatique.news.tg. Merci d'être passé dans cette émission. Nous disons merci fraternel à notre confrère et ami David Agouati qui a su nous remplacer au moment où nous n'étions pas là. David Agouati également qui enterre sa maman ce week-end. Et ça est justement toutes nos condoléances. Le Club de la Presse lui présente toutes nos condoléances pour cet événement. Et merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat, merci à Thomas et Tech aussi d'ATV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoutia. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.